Bienvenue sur le cours de F6 KGL. Et ce soir, on va commencer réellement la partie technique, puisque on va voir finalement les bases de l'électricité. Donc, c'est les grandes unités dont on va parler et reparler jusqu'à la fin du cours. Et c'est ces premières bases d'électricité qui ont été finalement découvertes. Tout au moins mise en application au début du 19e siècle, enfin et tout au long du 19e siècle. Voilà. Donc, l'électricité, en fait, quand on parle d'électricité, on a quatre grandeurs. Qu'on va voir en détail là, qui sont donc la tension, l'intensité, la résistance et la puissance. Ce sont des quatre unités de grandeur qui sont très importantes et qui finalement sont toutes liées les unes aux autres par deux lois qui s'appellent, et ces deux lois s'appellent la loi de Joule et la loi d'Ohm. D'abord la loi d'Ohm et après la loi de Joule. Mais tout d'abord, on va voir quelles sont ces quatre grandeurs, et on va le voir dans l'ordre dans lequel elles ont été découvertes, ou tout au moins dans comment on a découvert et mis en relation toutes ces grandeurs. Première découverte, entre guillemets, c'est Alessandro Volta, donc un Italien, qui a mis au point un système qui s'appelle une pile. Alors pourquoi une pile? Parce qu'en fait c'était un empilement de pièces métalliques, donc du zinc et du charbon en l'occurrence, mais ça marche aussi avec du zinc et du cuivre par exemple. Ça marche aussi très bien comme ça. Donc ça, c'est Alessandro Volta. Il découvre, entre guillemets, cette possibilité en 1800, précisément. Alors, faut bien se rendre compte qu'avant cette découverte, avant Volta, il n'y avait aucun système qui permettait de générer une tension digne de ce nom, et surtout de l'avoir continuellement. C'est-à-dire qu'avant, on avait essentiellement, c'était de l'électricité statique, donc typiquement, enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez des expériences que vous avez pu voir à l'école, mais c'est frotter un bâton d'ébonite, par exemple, sur un pull, et du coup, ce bâton d'ébonite, on le rapproche de petits bouts de papier, et les petits bouts de papier sont attirés, parce qu'il y a de l'électricité statique dans ce bâton d'ébonite. Évidemment, ce sont des tensions qui sont très faibles et qui ne sont pas là en permanence. Donc, difficile de faire des expériences dans ce cas précis, rien qu'avec de l'électricité statique. L'autre électricité, c'est la foudre, hein, c'est le fameux paratonnerre de Newton. Et voilà, donc c'est aussi difficile de récupérer l'énergie de la foudre, voilà, il faut au moins qu'il y ait de l'orage. Et donc, Alessandro Volta, il a cette idée, alors je ne sais pas comment il a pu découvrir ce phénomène, enfin en tout cas en associant du zinc, du charbon et du cuivre, parce que je pense que dans son expérience c'était aussi un empilement de pièces métalliques, et entre les pièces il y avait un liquide plus ou moins acide qui faisait que la pile fonctionnait. Et donc voilà, donc je vous ai montré Alessandro Volta, il y a un superbe portrait avec son alors, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Voilà, donc la pile, elle est là. Ici, c'est... Ah, si je fais ça, ça va pour aller. Voilà, la pile, c'est cet empilement qui est ici. Voilà, donc ça, c'est sa pile. Et donc, voilà. En 1800, il faut se souvenir que la France avait envahi tout le nord de l'Italie, et que donc, c'était... c'est Napoléon et ses généraux qui s'occupaient de tout le nord de l'Italie. Et donc, naturellement, Alessandro Volta présente sa pile à Napoléon. Et évidemment, Napoléon lui dit, ben oui, et alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et Alessandro Volta, il était un peu gêné parce qu'il ne voyait pas trop derrière ce que ça pouvait faire. Voilà. Donc ça, c'est aussi une gravure qui date de 1801, donc avec Volta qui présente sa pile à Napoléon, et Napoléon, qui était un grand visionnaire, voilà, disait, mais à quoi ça peut bien servir? Voilà. Petite blague, petite blagounette. Je reviens. Donc, ma tension, voilà, c'est, en fait, la tension, c'est le fait de générer une tension et justement et donc une tension, c'est par définition, ça se mesure entre deux points. Donc par exemple, si j'ai une résistance, dont on va voir tout à l'heure ce que c'est qu'une résistance, mais enfin si j'ai une résistance, ma tension, je vais la mesurer entre deux points, donc entre mon point B et mon point A. Et donc ça va me donner donc ma tension, B étant ma référence, et donc la tension ici c'est UBA. Hein, c'est-à-dire que je prends ici le début, je regarde ici la fin, et ça me donne donc la tension UBA, ou une tension par rapport à une référence, qui en règle générale c'est la masse. La masse du circuit, en règle générale, c'est le 0 volt, et c'est ce qui définit la tension, enfin c'est à partir de là qu'on définit la tension sur un point du circuit. Donc le voltmètre, on va le positionner, hein, puisqu'on représente, on mesure une tension avec un voltmètre, et ce voltmètre peut nous indiquer deux choses. Premièrement, il peut nous indiquer la tension de génération d'une pile. Et donc ça, donc du coup, on le présente d'une certaine manière. Et d'autre part, on peut aussi mesurer la chute de tension aux bornes d'une résistance. Et donc dans ce cas-là, dans le cas de la tension mesurée sur une pile, la tension, ça va s'appeler une force électromotrice. Et lorsqu'on est au contraire dans le cas d'une charge, donc on va consommer de l'énergie, eh bien on s'appelle ça une différence de potentiel. Voilà. Mais les deux, c'est une tension. D'autre part, pour montrer comment je mesure ma tension, ici sur ma flèche, puisque je vais mettre le début ici et la fin, enfin, je mesure entre l'entrée de ma résistance ici et la deuxième borne de ma résistance, donc ici entre B et A, et pour montrer dans quel sens je mesure, dans quel sens je dis la référence c'est B et la tension à mesurer c'est A, je mets une flèche ici sur A pour me dire, attention, ici c'est le point de mesure. Et concrètement sur mon voltmètre, la masse, ça va être le fil noir que je vais mettre ici sur le B, et le rouge, donc la tension que je veux mesurer ici, je la mets sur le A. Voilà. Et évidemment, si j'inverse mon voltmètre, c'est-à-dire que si j'inverse les deux broches, Alors, dans les voltmètres analogiques, c'était une aiguille, et donc l'aiguille, elle partait dans l'autre sens et on ne voyait rien du tout. Comme c'est des maintenant, ce sont des voltmètres analogiques que l'on a, eh bien, ici, on a un moins qui apparaît pour montrer que on est bien dans l'autre sens et que la tension ici sur le rouge, sur le plot rouge, est inférieure à celle sur le plot noir. C'est pour ça qu'il y a deux. On a toujours un code couleur sur les câbles d'un multimètre pour repérer les tensions, enfin tout au moins le sens de la tension et le sens de l'intensité quand on est en courant continu. Donc là, en l'occurrence, ma tension de référence, c'est pas la masse, là c'est B. Donc c'est en fait l'entrée de ma résistance. Et donc là, je peux avoir un circuit avant qui du coup va me faire chuter encore plus ma tension par rapport à la masse. Et ça, on verra ça une autre fois quand on fera les associations justement de résistance pour voir. Ça s'appelle la loi des nœuds et des mailles. On verra ça la semaine prochaine. Donc, ça, c'est donc ce qui s'est passé. Alors, évidemment, le voltmètre n'existait pas. Et donc, je ne sais pas trop comment Volta faisait pour montrer qu'il y avait une tension. Peut-être tout simplement en mettant les doigts sur la pile, quoique ça ne fait pas grand-chose, hein, puisque quand on regarde les piles de Volta, il y avait 15 éléments maximum. Donc, compte tenu du rendement de l'ensemble qui ne devait pas être extraordinaire, ça devait être 1 volt par élément, donc on devait avoir 15 volts maximum. Donc voilà, il y a un peu de risque que on puisse s'électriser. Voilà. Donc pendant un certain temps, eh ben, on n'a pas su quoi faire de cette belle invention d'Alessandro Volta. Personne ne savait quoi en faire. Jusqu'au jour où. Alors ça, c'est en 1820, début 1820. On a un Danois qui s'appelle Ørsted. Alors, c'était un savant. Donc un savant, à l'époque, bah, c'était quelqu'un, un joyeux bidouilleur, comme certains d'entre nous aujourd'hui. Et comme tout bon bidouilleur, eh bien, il avait un bureau qui, tout au moins, ce qui servait de bureau, c'était un foutoir pas possible. Et il se trouve que dans ce foutoir pas possible, il y a eu à un moment une pile, un bout de fil électrique et, à tout au moins, deux conducteurs et une boussole. Voilà. Et Ørsted a remarqué que quand il faisait passer du courant dans son conducteur en branchant la pile, et bien il s'aperçut que la boussole qui était à côté, eh bien, elle changeait de sens. Tout au moins que l'aiguille de la boussole n'indiquait plus le nord. Donc, voilà. Donc, il constate ça, mais sans comprendre le phénomène, évidemment. Il constate ça, il fait un article dans des journaux scientifiques de l'époque, en notant cette expérience qu'il avait faite et qu'il ne comprenait pas. Et c'est André-Marie Ampère, donc un Français, qui lit l'article et qui, lui, comprend ce qui se passe. Et donc, c'est la fameuse relation entre le magnétisme et l'électricité. Donc, en fait, ce qui a motivé, finalement, la découverte de l'intensité du courant électrique, c'est en fait le champ magnétique créé par le courant électrique. D'accord ? Et alors, c'est la fameuse règle du bonhomme d'Ampère ou de la main droite, et ça, on reviendra dessus quand on verra notamment les bobines et même les antennes, puisque les antennes vont fonctionner, au moins les antennes qui ne sont pas des antennes magnétiques, vont fonctionner avec ce système-là. Alors, le bonhomme d'Ampère, c'est simple, c'est que si vous avez un courant qui traverse le bonhomme des pieds vers la tête et qu'il regarde devant lui la boussole, le courant va faire déplacer l'aiguille de la boussole, donc le nord de la boussole, vers la gauche. Et ça, c'est systématique. Et donc, il faut que le courant, évidemment, passe des pieds vers la tête. Si ça va de la tête vers les pieds, évidemment, la boussole va, elle, tourner, va faire un demi-tour. Et donc, si elle indiquait le nord, si le nord était en face du bonhomme d'enfer, là, eh bien, la boussole va se mettre en travers. Et donc, ça, c'est le champ magnétique, la force du champ magnétique qui fait ça. D'accord ? Autre manière aussi de présenter les choses, c'est la règle de la main, alors non pas de la main droite, mais de la main gauche, si, la main droite, la règle de la main droite, c'est-à-dire que vous avez l'intensité qui passe par le pouce, donc qui sort du pouce, si bien que le champ magnétique, donc on prend, je vais vous mettre ça à la webcam, ça sera plus facile à comprendre. Donc j'ai mon doigt qui est comme ça. L'intensité part du pouce, ce qui veut dire que le champ magnétique est perpendiculaire dans ce sens-là. Et donc la force du champ magnétique, lui, va prendre vers l'index. Hein, ce sont les trois. Donc ici l'intensité, ici le champ magnétique, ici la force du champ magnétique. Voilà. Donc c'est l'index qui indique la direction de la force du champ magnétique et donc la direction que va prendre l'aiguille de la boussole. Je reviens sur mon PDF. Donc ça c'est important, ça va vous... On va revenir dessus quand on fera les bobines. Hein, parce qu'évidemment les bobines ça va marcher avec un champ magnétique. Et même chose d'ailleurs pour les antennes, ça fonctionne de la même manière. Donc, mon intensité, en fait, c'est cette intensité qui génère ce champ magnétique, et donc cette force du champ magnétique. Donc l'intensité, elle est donnée en ampères. Évidemment, on a donné, on a donné le nom de volt à cause de Monsieur Volta. On aurait pu appeler ça des voltas, on appelait ça des volts. En revanche, des ampères, on a utilisé le nom de André-Marie Ampère. Alors, non pas le découvreur, puisque le découvreur, c'est Oersted, mais il a découvert, mais il savait pas ce que c'était. C'est les travaux d'Ampère qui ont permis de comprendre ce qui s'était passé, et donc de définir d'une part l'intensité, et d'autre part le champ magnétique. Donc ça, c'est 1820 quand même, il y a 20 ans de différence entre les deux. C'est-à-dire que pendant 20 ans, il ne s'est strictement rien passé. Voilà. Et donc, c'est à partir du moment où on trouve à quoi peut servir une pile, donc à générer un champ magnétique, qu'on commence à bricoler autour. Et donc, on bricole autour et... on bricole autour et donc on commence à avoir autre chose que le champ magnétique. Et cette autre chose arrive assez rapidement, 7 ans après, avec un Allemand cette fois-ci, qui s'appelle Georg Simon Ohm, qui a travaillé sur la théorie du circuit galvanique. Donc c'est comment faire varier l'intensité à partir de la tension. Et donc, comment faire varier l'intensité à partir de la tension grâce à une résistance. Et donc, c'est M. Ohm qui donne donc cette fameuse loi d'Ohm. M. Ohm arrive avec sa loi, et donc il dit la résistance, elle va être fonction de la tension et de l'intensité, en disant que la résistance, c'est la tension divisée par l'intensité. Et donc, une résistance, c'est donc un composant. Alors, on verra plus en détail ce composant la semaine prochaine, mais voilà, c'est, tout le monde a déjà entendu parler des résistances, il y en a des tas de valeurs différentes, de formes différentes. Voilà, le schéma, c'est toujours un peu le même. C'est soit, alors le schéma conventionnel, c'est un rectangle comme ça, avec, alors, soit à l'intérieur la valeur, ou marqué R parce que c'est une résistance, ou juste à côté, on met la valeur. Autre manière de représenter, ça c'était les anciens schémas, l'espèce de dents de scie, là. Ça c'était un ancien schéma qu'on voyait, en règle générale, on a vu ça jusque dans les années 50. Après, on a vu essentiellement des rectangles, et puis de temps en temps aussi, on a cette forme ici, qui est plus une forme de la forme en elle-même de la résistance, puisqu'on voit ici, il y a les deux petits morceaux, les deux petits embouts de chaque côté. Hein, c'est plus dans cet esprit-là. Donc la résistance, elle est notée R comme résistance, et elle se mesure en ohms, et on écrit ohm avec la lettre grecque oméga, et donc la lettre grecque oméga, c'est cette espèce de fer à cheval. Voilà, donc ça c'est la valeur, elle est toujours donnée en ohm, et donc ohm, soit on l'écrit en toutes lettres, ou HM, comme le nom de monsieur ohm, ou alors on écrit avec cette lettre-là, le oméga majuscule. Important, la résistance, mais ça on en reparlera aussi un peu la semaine prochaine, la résistance, c'est à la fois le phénomène, donc le phénomène de résistance au passage du courant, mais aussi le composant. Hein, donc quand on parle de résistance, on parle soit du phénomène de résistance, ou alors du composant. Mais voilà, donc en français, on a le même mot. Alors que dans d'autres langues, comme par exemple en anglais, on a deux mots différents. On a resistance pour le phénomène et resistor pour le composant. Donc comme ça, on ne confond pas les deux. Alors que en français, on mélange un peu les genres, puisque résistance, on n'appréhende pas si c'est le composant ou le phénomène. Donc représentation schématique, on l'a vu. Le multimètre, on mesure une résistance avec un multimètre. Donc ici, par exemple, alors le mieux c'est de couper ici, enfin on est obligé de couper le circuit, c'est-à-dire qu'on est obligé de, alors même si on ne retire pas physiquement la résistance, mais on est obligé ici de couper le circuit. Pourquoi ? Parce que sinon le système prend en compte la résistance que l'on a évidemment ici, mais aussi la résistance qu'on pourrait avoir tout autour là. Donc si bien qu'on a en parallèle en fait deux types de résistances et qui ne s'approchent pas trop, d'autant plus que la pile là c'est pas trop un composant qui sert de résistance. Pour que l'instrument de mesure, le multimètre, mesure bien la résistance, il faut absolument que la résistance ne soit pas dans le circuit, qu'elle soit à l'extérieur du circuit. Et là, la manière que j'ai trouvée pour mesurer la résistance, ici, c'est de couper le circuit. Comme ça, la pile ne débite plus et donc on peut mesurer facilement la résistance. On verra en détail donc cette résistance la semaine prochaine. Donc ça c'est 1927 et juste après c'est 1930, c'est pas indiqué là, mais on a la puissance, c'est quasiment en même temps. Et même je dirais que c'est ohm qui détermine aussi la loi de Joule. La loi de Joule, je rappelle, c'est P égale 8, donc c'est... On va parler de puissance, c'est-à-dire de chaleur dissipée par la résistance. Mais pas que des chaleurs, parce que là, en l'occurrence, c'est une résistance, et donc ça dissipe de la chaleur, mais si on met sur la pile d'autres éléments, eh bien, ça peut donner d'autres choses. Donc, la puissance, elle est donnée en watts, et Monsieur Watt n'a eu strictement rien à voir avec la puissance des résistances. Monsieur Watt, il a travaillé, lui, sur la machine à vapeur. Et la machine à vapeur, évidemment, c'était l'invention, une invention très, très importante de l'époque, puisque ça générait une puissance beaucoup plus importante qu'un simple cheval. Hein, c'est pourquoi on a utilisé le cheval à vapeur. En électricité, la puissance, c'est en règle générale la chaleur dégagée. Mais pas que. On peut aussi avoir... Alors, en termes de puissance, alors la puissance, on peut l'avoir sous deux formes. Soit une puissance disponible, et donc dans ce cas-là, bah, c'est votre générateur, donc c'est soit la pile, ou Monsieur EDF ou Monsieur Enedis, comme vous voulez, qui vous fournit la puissance, donc c'est une puissance disponible, c'est la source, ça se mesure en watts, donc voilà, c'est la puissance disponible, ou alors c'est la puissance qui est consommée. Et donc, dans ce cas-là, qui est consommée soit par une résistance, et dans ce cas-là, c'est la chaleur dégagée par la résistance, hein, ça chauffe, voilà, c'est la chaleur dégagée par la résistance, et d'autre part, il peut y avoir aussi des phénomènes comme électrochimique. Je recharge un accumulateur. C'est-à-dire que le fait de recharger un accumulateur, l'accumulateur chauffe, d'accord, mais c'est pas, il ne devrait pas le faire. Mais surtout, il se recharge. Et donc, il y a une partie de l'énergie qui est transformée de manière électrochimique. De manière électromécanique. Une antenne, par exemple, une antenne, si vous mettez une puissance... Si vous l'alimentez par une puissance, elle ne va pas chauffer. Du moins, si elle chauffe, il y a un problème. Et donc, elle va générer un champ électromagnétique. Et donc, voilà, il y a besoin d'une certaine quantité d'énergie pour faire fonctionner l'antenne. Typiquement aussi le moteur mécanique. Un moteur, ça ne doit pas chauffer. Du moins, si, encore une fois, si ça chauffe, c'est une partie de l'énergie qui est perdue. Juste pour rappel, le cheval vapeur... C'est quoi un cheval vapeur? C'est un cheval qui tire une masse ici qui fait 75 kg et qui la monte de 1 mètre en une seconde. Ça, c'est la définition du cheval vapeur. Et quand on multiplie donc toutes ces notions-là, c'est-à-dire 75 kg en mètre, enfin, multiplié par mètre divisé par les secondes, et qu'on multiplie ici par l'accélération, donc le 981 ou le 9806, eh bien on obtient des watts. Donc voilà la définition du watt par rapport au cheval vapeur. D'accord ? Et après aussi on a un passage entre les watts et les calories. Les calories, je rappelle, c'est augmentation d'un degré... D'un degré, d'un litre de liquide, enfin d'un litre d'eau. Hein, donc une calorie, c'est augmenter d'un degré un litre d'eau. Il n'y a pas d'histoire de temps puisque c'est une quantité d'énergie qui, pour le faire. Donc voilà. Ce que j'ai oublié de préciser aussi pour l'intensité, et ça c'est important, c'est que l'intensité, elle a un sens. C'est-à-dire que on est obligé de définir, donc la tension, on l'a définie là, et l'intensité va toujours du plus vers le moins. Ça, c'est l'intensité, je dirais, le sens conventionnel du courant. On verra, quand on verra un peu plus loin, notamment avec les transistors, que le vrai courant, donc les électrons, pas de chance, ils se baladent dans l'autre sens. Donc en fait, c'est Marie-Ampère qui s'est plantée quand il a défini son intensité. Il ne connaissait pas encore les électrons. Et donc il avait une chance sur deux, et pas de chance, il n'a pas eu la bonne chance. Et donc il a fait aller les électrons dans l'autre sens que le courant. Voilà. Donc l'intensité, elle se présente ici avec une flèche sur le circuit pour bien montrer que ça se passe dans le circuit, c'est de l'intensité, hein, il y a vraiment comment dire, de la matière qui passe dans le fil. Et donc l'intensité, c'est mesurer le débit de ce courant à un endroit précis du circuit. Et donc l'endroit précis du circuit, c'est ici. Concrètement, il faut couper le circuit pour pouvoir insérer l'ampèremètre. Ici, j'ai coupé le circuit pour pouvoir insérer ici mon ampèremètre. Et évidemment, de la même manière, le noir, je le mets ici à la masse, le plus au plus, et comme ça me permet de vérifier. Donc le noir ici, je vais le mettre à la masse, le plus ici, et donc le courant va aller du plus vers le moins. Remarquez sur mon voltmètre, et ça c'est valable pour tous les voltmètres. C'est valable pour tous les voltmètres, la tension et la résistance se mesurent avec ici des plots bien précis, donc qu'on appelle ici le commun, le noir est toujours le commun, et le rouge ici, il accueille la tension et la résistance. Pour l'intensité, vous allez utiliser un autre plot, et si vous ne le faites pas, vous êtes certain de cramer votre instrument de mesure. Enfin, tout au moins un instrument analogique, à cadran, il va pas trop aimer. Normalement, les matériels, les voltmètres numériques, ils sont un peu protégés. Généralement, ils vous mettent un message d'insulte, ou ils mesurent rien du tout d'ailleurs, si vous ne mettez pas ici les bonnes broches aux bons endroits. Donc voilà pour l'intensité. Je reviens sur ma puissance. Et donc ma puissance, c'est le. Et là, en fait, j'ai tous mes éléments. Hein. Donc j'ai ma tension. Donc la tension entre B et A. L'intensité au point B, qui entre parenthèses va être la même intensité au point A, puisque entre les deux, là, bah, j'ai pas de fils qui s'en vont. Et donc les électrons qui sont ici, on va les retrouver à la sortie de la résistance. Alors, ce ne sera peut-être pas exactement les mêmes, puisqu'il y en aura peut-être un petit stock dans la résistance, peut-être. Mais en tout cas, en termes de nombre, ils seront autant nombreux avant qu'après. Donc ça, c'est l'intensité, ma résistance, on l'a vu, et ma puissance dégagée, donc c'est bah, ça chauffe. Alors, on met son doigt dessus et on voit que ça chauffe. Donc tout ça fait que on a donc nos quatre grandeurs qu'on a vues. Donc ça, c'est 1830 à peu près, pour vous donner une idée. Et on définit donc enfin les deux lois qui sont très importantes, qu'on va utiliser tout le temps et dans tous les sens. Donc la loi de Joule, la loi de d'Ohm, qui me dit que U égale à R multiplié par I, donc U en volts, R en ohms, I en ampères. Et la loi de Joule qui me dit que la puissance en watts, c'est égal à la tension en volts multipliée par l'intensité en ampères. Alors, juste un truc, pourquoi U pour la tension? Je n'en ai aucune idée. Voilà, on aurait pu très bien appeler ça T comme tension, mais U, ça correspond même pas à quelque chose en anglais. Donc, voilà. Donc ces deux lois-là sont les deux lois fondamentales, et donc fondamentales de l'électricité, et donc elles s'appliquent elles expriment donc ces relations entre ces quatre grandeurs. Voilà. Donc, ça, c'est très important. Et donc, une fois qu'on a ces deux lois-là, eh bien, on peut, puisque on connaît un petit peu les mathématiques maintenant, on sait transformer des équations. Et donc, si j'ai U égale RI, eh bien, je sais que R est égal à U sur I, puisque j'ai le I qui est là et qui va passer, quand je le mets de l'autre côté du signal, il va passer en dessous. Donc, R est égal à U sur I, où I est égal à U sur R. Puisque, encore une fois, je prends le R, je le mets de l'autre côté du signal, et donc ça passe en dessous. Monsieur Joule, on va le voir plus tard, ne soyez pas tout de suite... on va le voir, Monsieur Joule, vous inquiétez pas. C'est par ordre d'arrivée, exactement. Et donc, même chose pour la loi de Joule. Alors, ça s'appelle pas la loi de Watt. Pourquoi ? Je ne sais pas, ça s'appelle la loi de Joule, mais on va voir. Joule et Watt, ça va ensemble. Et donc, pour ma loi de Joule, donc j'ai donc P égale I, et donc U est égal à P divisé par I, où I est égal à P divisé par U. Alors, Ludovic qui me dit U viendrait de l'allemand Unterschied, qui signifie différence. C'est très possible. C'est très possible puisqu'on a vu que Ohm était d'origine allemande, et donc comme il a défini la loi d'Ohm, ça serait peut-être une possibilité. Effectivement. Je note. Je note. Et donc, voilà mes quatre grandeurs. Alors, après, on peut compliquer un peu les choses, puisque on voit ici, on a U. Et donc, on peut s'amuser à calculer la puissance sans se servir de U, mais si j'ai seulement R et I. Et donc, en remplaçant ici U par sa valeur que j'ai au-dessus RI, j'obtiens P égale R multiplié par I multiplié par I, ou P égale RI2. Autre possibilité aussi, je vois que I est égal à U sur R, je l'ai déjà vu tout à l'heure en transformant celle-là, et si je transforme I est égal à U sur R, donc ça me donne U multiplié par U sur R, et donc ça me donne P égale U2 sur R. À partir de ces deux formules-là, je peux encore m'amuser à les transformer, puisque voilà, le P égale U2 sur R, donc R est égal à P sur U2, etc. etc. Donc on peut s'amuser avec ces deux formules de base, on mélange le tout, et on arrive en tout avec 12 formules. Alors, soit ce sont les variantes que l'on a ici, ou alors, autre manière, plus simple, puisque ici j'ai un tableau qui résume l'ensemble de ces formules. Hein. Ici, j'ai les valeurs, les inconnues, donc la puissance, la tension, l'intensité et la résistance. Et ici, encore les mêmes valeurs, et donc au croisement de la puissance et de la tension, et eh bien ici j'ai je peux calculer l'intensité. Et si je cherche tension et puissance, je peux aussi calculer ici la résistance. Donc à partir seulement de deux des quatre valeurs, je peux définir les deux autres. C'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Et donc il suffit d'avoir seulement deux valeurs, donc soit la résistance ou la tension ou l'intensité ou la puissance, donc à deux de ces valeurs, et à partir de deux de ces valeurs, et avec toutes les formules, eh bien je peux retrouver les deux autres. Et ça marchera systématiquement. Donc c'est quand même un truc très intéressant. Donc vous les avez ici dans ce genre, sur ce tableau récapitulatif. Ici j'ai mis en rouge les formules dont on parle ici, donc les formules de base. Okay. Mais aussi je les ai mis ici sous cette forme de triangle. Et c'est sous cette forme que j'aimerais bien que vous appreniez ces formules, parce que au moins c'est très visuel. Moi j'aime bien ce qui est visuel. Et donc comme ça, ça rentre bien dans la tête. Comment ça va fonctionner? On en a déjà parlé il y a 15 jours, quand on a vu des rappels d'algèbre et de mathématiques. Pour U égale RI, si je cherche U, je cache U ici, et U, je vois que c'est égal à R multiplié par I. Si je veux calculer I, je cache I ici, et je vois que ça me donne U sur R, donc U divisé par R. Et ça, c'est valable pour ces quatre triangles, donc on peut le faire partout. Pour faire attention, c'est quand on voit ici qu'il y a U carré. Quand on cache quelque chose au carré, il faudra prendre le résultat, donc la résultante, il faudra prendre la racine carrée de cette résultante. Donc par exemple, ici, si je cherche U, que je cache U, comme il est au carré, il faudra que je prenne la racine carrée de P multiplié par R. Et ici, comme j'ai un I au carré, il va falloir que je prenne la racine carrée de P divisé par R. Mais avec ces quatre triangles-là, vous allez pouvoir retrouver, alors évidemment, il faut trouver le bon triangle qui marche, hein, évidemment, sinon ça... en cherchant un peu, vous allez trouver la formule qui va bien, enfin les deux formules qui iront bien, pour retrouver les valeurs des tensions, les deux valeurs qui vous manqueront par rapport aux données que vous avez eues. Évidemment, il vous en faut au moins deux. Trois, c'est idéal, mais c'est jamais le cas. Il vous en faut au moins deux. Et voilà. Et généralement, c'est plutôt tension et résistance ou intensité et résistance. La puissance, en règle générale, il faut bien savoir que la puissance, on n'a aucun instrument de mesure qui sait la mesurer. La puissance, elle se calcule toujours. Donc elle se calcule par rapport à la tension, l'intensité ou la résistance. Et en règle générale, on n'a pas d'instrument de mesure qui permet de mesurer une puissance. On mesure soit une intensité ou une tension la plupart du temps. Alors on verra ça de toute façon quand on fera notamment le wattmètre, quand on fera la partie émission et aussi quand on parlera des galvanomètres, on parlera des wattmètres à ce moment-là. Alors, ça, j'ai récupéré ça sur Internet. C'est, y en a qui ne jurent que par cette fameuse roue électrique où vous avez toutes les formules sur une seule et même figure. Donc au centre là, vous avez l'inconnu à calculer, donc P, et donc avec les trois formules qui vous permettent de calculer P. Donc il faut que vous cherchiez les informations, les formules là-dedans. Si vous avez par exemple R et I, eh bien il faudra utiliser cette formule-là. Si vous avez U et I, c'est cette formule-là. Et si vous avez U et R, c'est cette formule-là. Et ça tourne évidemment. Vous retrouvez vos 12 formules. Et puis là, j'ai trouvé ça aussi, un petit schéma qui illustre bien la loi d'Ohm. Alors, j'ai pas trouvé de schéma, par contre, sur la loi de Joule. Enfin, tout au moins une photo aussi parlante sur la loi de Joule. On voit bien ici le pauvre petit ampère qui essaye de passer dans le trou, parce qu'évidemment, plus la résistance est importante, plus ici... c'est resserré. Hein. Plus on augmente la résistance, plus le passage est fin. Et donc, la résistance, la ohm, plus elle est forte, plus elle va limiter le passage de l'intensité. Et derrière, on a le petit volt là qui pousse les fesses du pauvre ampère pour qu'il passe à travers la résistance. Et plus cette tension est importante, plus bah, le petit bonhomme va pousser aux fesses de l'intensité. Voilà. Et l'intensité, bah, si elle est fine, elle passe. Plus elle est grosse, et bien plus elle a de l'embonpoint, et ben moins elle a de plus elle a de difficulté de passer. Voilà. Donc c'est, j'ai bien aimé ce petit schéma. Ça permet de bien comprendre comment cette relation entre la tension, la résistance et l'intensité. En même temps, on le comprend assez bien. Hein. Plus l'intensité, enfin plus la tension est importante, plus ça va pousser. Et plus ça pousse, et ben plus il y a une intensité, sauf s'il y a quelque chose qui fait que l'intensité est limitée, et ce quelque chose, c'est la résistance. Donc voilà, ça c'est pour vous amuser un petit peu. Ben, maintenant, une fois qu'on s'est bien amusé, on va bosser un peu. Et exemple, donc ça ce sont des exemples de questions d'examen. Donc on a soit alors ça c'est il y a une erreur parce que vous voyez ça c'est mon traitement de texte qui me fait avoir systématiquement parce que ça c'est un W donc il faudrait que je passe dans en police symbole pour transformer ce W en ohm. Voilà, donc ce n'est pas une résistance de 1500 watts, c'est une résistance de 1500 ohms. Et donc soit une résistance de 1500 ohms parcourue par un courant de 0,1 ampère, quelle est la tension à ces bornes et quelle est la puissance dissipée? Donc j'ai deux grandeurs, la résistance et l'intensité. Et là, ce que je veux connaître, c'est la tension et la puissance, les deux autres. Donc, résistance, intensité, bah, du coup, pour trouver la tension, c'est assez simple. Là, c'est la loi d'Ohm. Et donc, je fais P égale R multiplié par I. Tout simple. Donc 1500 multiplié par 0,1, bah, ça me donne 150 volts. J'ai même pas besoin de sortir la calculette. Alors évidemment, à l'examen, c'est cette question ou celle-là. Hein. C'est pas les deux, puisque je rappelle encore une fois, il n'y a qu'une seule réponse. Voilà. Donc soit on pose la question quelle est la tension ou quelle est la puissance. Et là, pour les besoins de la présentation, bah, je vous ai mis les deux. Et c'est comme ça, ça vous fait faire des exercices. Deuxième question, quelle est la puissance? Et là, j'ai plein de possibilités. Premièrement, parce que je suis un grand fainéant, je vais utiliser la loi de Joule, puisque j'ai déjà calculé auparavant ici la tension. La loi de Joule, elle me dit quoi? Puissance est égale à tension multipliée par intensité. Donc je fais mes 150 volts que je viens de calculer à l'instant, multiplié par mes 0,1 ampère, et ça me donne 15 watts. Autre solution, parce que j'ai pas trouvé le premier ou que je suis un peu tordu, eh bien je peux utiliser à partir de mes 150 ohms et de mes 0,1 ampère, calculer directement, parce que j'ai cherché dans mes triangles quel est le triangle où j'ai à la fois la puissance, la résistance et l'intensité, hein, dans mes trois triangles là, lequel j'ai à la fois la puissance, la résistance et l'intensité, pas celui-là parce que là j'ai pas la résistance et la tension, pas celui-là parce que j'ai pas l'intensité, mais j'ai la tension. Ça ne va pas. En revanche, j'ai celui-là où j'ai la résistance, l'intensité et la puissance. Et donc, je peux utiliser ce triangle-là. Et là, je vais donc l'utiliser. Je cache ici mon P, puisque c'est ce que je veux chercher. Et P égale R multiplié par I au carré. Donc R multiplié par I au carré, c'est 1500 multiplié par 0,1 multiplié par 0,1. Et donc ça me fait 15 watts. D'ailleurs, au passage, vous remarquez que ça ressemble, c'est la même logique qu'ici. Et puis pour ceux qui sont vraiment tordus, on peut aussi s'amuser avec cette formule, P égale U2 sur R, puisqu'on a déjà U, on a R, donc P égale U2 sur R, ça fait donc 150 multiplié par 150 divisé par 1500, ce qui fait 22500 divisé par 1500. Alors si vous, voilà, de tête, je comprends que vous auriez un peu de mal, donc vous prenez votre calculette, et donc ça me donne donc 15 watts. Heureusement, d'ailleurs, vous remarquez que c'est systématiquement 15 watts. Heureusement. Deuxième calcul, quelle est la puissance P dissipée et la valeur R? Donc, ici, j'ai non pas une question comme ça, là c'est une question sans schéma, hein, on est bien d'accord, donc voilà ce que j'appelle une question de littérature, donc il faut bien lire la question, là c'est un schéma, donc on vous montre, alors évidemment, encore une fois à l'examen, c'est soit la question porte ici sur la puissance ou sur la résistance, mais pas sur les deux, évidemment, encore une fois, là c'est juste pour vous montrer que tout est lié. Donc, on va commencer par la puissance, par exemple, parce que ça me semble ce qui est aussi assez simple. Puissance P égale UI, donc U, ici j'ai 2 volts, ici j'ai 0,05 ampères, donc je multiplie 2 par 0,05, je ne me plante pas dans les zéros, parce que ça c'est le piège. Parce que systématiquement, vous allez avoir en bonne réponse 1 watt, pour ceux qui font des raccourcis un peu rapides, et évidemment, la bonne réponse est 0,1 watt, hein, donc 100 milliwatts, quoi. Et donc, voilà, c'est 0,1 watt, et quand on cherche à calculer la résistance, donc R, on va rechercher dans mon tableau où j'ai R, U et I, bah, le seul où j'ai U, R, U et I, c'est celui-là. Et comment je vais faire? Eh bien, alors, R est égal à U divisé par I, puisque c'est R que je cherche. Donc, U divisé par I, je reviens là. Et donc, je fais 2 divisé par 0,05. Alors là, soit vous êtes bon en calcul mental, soit vous n'êtes pas bon, si vous êtes bon, vous le faites de tête, si vous n'êtes pas bon, vous le mettez sur la calculette. Moi, je me débrouille pas trop mal, donc si je divise par 0,05, c'est comme si je multipliais par 20, et donc 2 fois 20, ça me fait 40. Voilà. Faut pas se fier à ma capacité à simplifier les opérations. Voilà, utilisez-vous la calculette, c'est tout simple, hein, y a pas grand chose à faire, mais surtout ne vous n'oubliez jamais de zéro ou n'en mettez pas de trop. Voilà. Autre manière, on va voir toutes les formules. Donc par exemple, on a R est égal à P divisé par I au carré, donc on reprend encore ce même, le même triangle que celui-là, sauf que là je ne cache pas P comme là, mais je cache ici R. Et donc R est égal à P divisé par I au carré. Donc P, je l'ai 0,1 watts. Et je divise ça par 0,5 au carré. Donc fait plus grand chose. Donc ça fait 0,1 divisé par 0,05 lui-même multiplié par 0,05 et ça me donne encore au miracle 40. Autre solution, c'est d'utiliser encore un autre triangle puisque je connais la tension, je connais la puissance que j'ai calculée là. Donc U au carré, donc U au carré c'est donc 2 au carré, divisé par 0,1, hein, la puissance qui est là, et ça me donne encore 40 ohms. Donc vous voyez qu'on retrouve, on retombe toujours sur nos pattes. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est normal, hein, c'est de la mathématique, hein, puisqu'on avait deux formules qui sont liées, et puis après, bah, on les transforme, on arrive à ce que les formules soient liées les unes aux autres. Donc ça, c'est pour que vous compreniez bien que c'est important de connaître parfaitement et par cœur ces fameux quatre triangles. Parce qu'à partir de là, vous allez pouvoir faire tous les calculs possibles et imaginables. Et encore une fois, n'hésitez pas si c'est des formules. Quand c'est des multiplications, généralement ça va. Mais quand c'est des divisions, faut faire très attention parce que une erreur de saisie sur la calculette, ça marche pas. Et généralement, la NFR est très. C'est leur boulot, hein. Ils sont très méchants, c'est qu'ils préparent toutes les possibilités de fausses manips sur la calculette avec des réponses proposées. Donc, si vous tapez trop rapidement votre formule, vous êtes certain de pas. Et ce n'est pas un miracle, comme dit Cyril. Ce n'est pas un miracle, c'est le miracle des mathématiques. Alors, nous avons d'autres unités. Voilà qui va faire plaisir à ceux qui attendaient M. Joule, que je vais vous présenter un peu après. Déjà, je vous présente M. Coulon. Alors, M. Coulon, il a commencé à bosser un petit peu sur les charges électriques, mais c'était des charges électriques plutôt côté électricité statique. Pourquoi ? C'est que lui, il a bossé en 1784. Donc 1784, la pile n'existait pas. Et donc, il a travaillé du coup sur des charges électriques qui étaient générées par de l'électricité statique. Et il a mis au point un truc un peu particulier. Alors, je l'ai trouvé sur Internet, mais j'ai pas compris comment ça fonctionnait. C'est une balance, la balance de Coulon, qui mesure la force entre deux charges électriques. C'est-à-dire qu'il doit charger un plateau, ou je sais pas quoi, de la balance, d'une certaine charge. L'autre côté de la balance, l'autre plateau avec une autre charge, et il y a un système qui fait que on montre quel est le plateau où il y a le plus de charge électrique. Alors, je dis plateau, c'est sûrement faux, mais le schéma que j'ai vu, ça ressemblait vraiment à un plateau de balance. C'est pour ça que je ne sais pas trop comment ça fonctionnait, mais en tout cas, comment c'est arrivé là. Et donc, le Coulomb, c'est la quantité d'électricité que l'on va noter. Alors, le Coulomb, c'est noté C, hein, donc l'intensité I. Le Coulomb va être noté C. L'intensité, c'est ampère, donc c'est A. Et donc, le Coulomb va être noté C. Alors que la quantité d'électricité, donc l'équivalent de l'intensité, la quantité d'électricité va être notée Q. Hein, intensité égale notée I, quantité d'électricité notée Q. Donc L'intensité, c'est une quantité d'électricité par unité de temps. On a vu un peu avant que l'unité de temps en physique, c'est toujours, toujours la seconde, c'est pas autre chose. Et donc, le coulomb, c'est la quantité d'électricité, enfin tout au moins 1 ampère, c'est égal à 1 coulomb par seconde. Et le coulomb, c'est une quantité d'électricité, donc concrètement, c'est un nombre d'électrons qui passent dans, dans un fil. Et précisément, c'est 6,25 10 puissance 18. Donc, quand même, au passage, ça fait environ 6 milliards de milliards. Je rappelle, on est quand même un peu plus de 7 milliards, presque 8 milliards sur Terre. Donc, si, c'est comme si chaque homme sur Terre avait porté sur lui 1 milliard de je sais pas quoi, et donc on comptait l'ensemble de ces choses. Voilà, donc c'est pour vous donner, et ce n'est que un coulomb, hein, donc 1 ampère par seconde. Donc vous imaginez le nombre d'électrons qui peut passer, par exemple, dans une centrale électrique, par exemple. Donc c'est un nombre quand même impressionnant, et c'est pour vous aussi pour vous dire que l'électron est infiniment petit. Voilà, donc cette histoire de coulomb va nous intéresser beaucoup par la suite. Pourquoi ? Parce que c'est tout ce qui permet d'emmagasiner de l'électricité. Et dès qu'on commence à emmagasiner de l'électricité, eh bien on va mesurer ça en coulomb. Voilà. Alors il y a une autre unité d'électricité qu'on va utiliser par exemple dans les piles ou les accumulateurs, ce sont les ampères-heure. Parce qu'évidemment le coulomb, ça va donner des valeurs très importantes. Hein. 1 ampère par seconde, ben, ça en fait quand même pas mal. Et donc on va utiliser une autre unité qui s'appelle l'ampère-heure. Et l'ampère-heure, c'est quoi ? Ben, c'est la même chose que le coulomb, sauf que ben, on multiplie par 3600, et 3600, je rappelle, c'est le nombre de secondes qu'il y a dans une heure. Donc 1 ampère-heure, par définition, c'est 3600 coulombs. Mais l'ampère-heure est plus une unité plus facilement palpable par le commun des mortels. Hein. Si on vous donnait la valeur d'un accumulateur ou d'une pile en coulomb, ben ça vous marque beaucoup moins que cette valeur ici en ampère-heure. C'est exactement pareil que les kilomètres-heure et les mètres-secondes. Kilomètres-heure, on comprend ce que c'est. Mètres-secondes, ce qui est aussi une vitesse, eh bien, on a un peu de mal à se rendre compte de ce que ça donne. Voilà, donc c'est exactement la même chose et il y a une relation entre les deux. Voilà. Donc ça, c'est le coulomb. Et le joule, eh bien, donc le joule, il est noté J. Et donc ça représente la quantité non plus d'électricité, mais d'énergie. C'est-à-dire qu'on là, on va plus s'intéresser à l'intensité, mais on va s'intéresser au côté puissance. Et donc, cette énergie, elle peut être soit disponible, hein, donc c'est, et dans ce cas-là, elle est notée E. Et donc, juste pour vous rappeler vos bons souvenirs, ce E qui est indiqué là, c'est le E de la formule de E égale MC2. Hein. Donc, c'est l'énergie disponible. Voilà. Et quand, au contraire, quand on consomme cette énergie, donc c'est de l'énergie consommée, on va appeler ça le travail. Le travail en anglais, ça se dit work, et donc cette valeur, on va l'appeler W. Attention, ne pas confondre le W du travail avec le watt de la puissance. On va utiliser la même chose, sauf qu'il y en a un, c'est pour lui donner l'unité, et l'autre, c'est pour donner la valeur que l'on mesure. Donc, si vous voyez watt, enfin, W égale quelque chose, c'est qu'on va vous parler d'énergie consommée. En revanche, si vous voyez, par exemple, P égale 10 W, donc ce sont des watts et non pas du travail. Donc c'est un peu tordu. Je vous ai mis ici les formules qui sont ici. Donc P en watts, c'est égal à E, donc soit l'énergie disponible ou le travail, en joules, divisé par le temps en secondes. Parce qu'évidemment, on se rapporte toujours, comme pour le coulomb, à l'unité de temps qui est donc la seconde. Et puis, on peut s'amuser aussi à modifier, c'est-à-dire que le temps là qui est en dessous repasse de l'autre côté, et donc le temps ou le travail, donc en joules, est égal à la puissance, en watts, que je multiplie par le temps. D'accord ? Donc ça, le joule, c'est la quantité d'énergie. D'accord ? Autre unité pour quantifier l'énergie, et ça c'est utilisé par M. EDF ou M. Enedis, ou les autres opérateurs, c'est le watt-heure. Et ça va marcher comme pour l'ampère-heure, c'est-à-dire que le joule étant une unité très petite, eh bien, on va utiliser une autre unité plus facilement, parce que sinon le watt-heure, déjà que c'est pas très cher, mais alors le joule, ça serait des picocentimes, donc voilà, ou tout moins des microcentimes, donc ça va être un peu compliqué. Et donc monsieur EDF, même c'est même pas des watt-heures, il vous facture au kilowatt-heure, lui. Donc voilà. Si vous facturez en joules, ça ferait des valeurs très 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 petites. Et donc un watt-heure est égal à 3600 joules de la même manière. Donc on a bien retrouvé nos petits. Alors donc coulomb, on en a parlé. Joules, lui, il a travaillé pas réellement sur de l'électricité, il a travaillé sur l'équivalent mécanique de la chaleur. C'est-à-dire que on sent bien que si on a un radiateur, par exemple, il va chauffer, mais il va consommer autant qu'un moteur qui tourne. C'est-à-dire que si on prend un moteur d'un kilowatt, eh bien, le moteur d'un kilowatt va générer de la puissance mécanique, alors que si ce kilowatt, on le met dans une résistance, ça va juste chauffer. Et donc c'est bien pour faire la relation entre la chaleur dégagée et la puissance mécanique disponible. Voilà. Et donc c'est Monsieur Joule qui a travaillé là-dessus. Mais il n'a pas réellement travaillé sur l'électricité. Il était plutôt côté mécanique. Mais en tout cas, c'était un grand scientifique, donc on lui a attribué cette valeur. Alors, il faut savoir que toutes ces valeurs, elles ont été données au fur et à mesure, et souvent avec du retard. C'est-à-dire qu'à un moment, on se pose la question, qu'est-ce qu'on va utiliser comme unité ? Et donc, voilà, généralement, c'est après, une fois que la personne est décédée, qu'on décide de donner le nom de cette personne à l'unité. Et en règle générale, enfin, toutes les unités dont on vient de parler, là, elles ont été définies, grosso modo, entre le milieu du 19e siècle et le début du 20e siècle. Ah oui, et M. Joule n'est pas du tout français, hein. Oui, oui, c'est un bon anglais, hein. Alors peut-être d'origine française, mais en tout cas, c'était anglais. Alors, bah, quelques questions, évidemment, sur calculer Q, donc en coulomb, et W, donc le travail en joules. Donc j'ai une résistance de 5 ohms. Ici, une tension qui fait 10 volts et un temps qui fait 30 secondes. Donc voilà, pendant 30 secondes. Et donc pendant ces 30 secondes, combien je vais voir passer de coulomb dans ma résistance et combien de joules va dissiper ma résistance. Donc la valeur ici de la quantité d'électricité, donc je rappelle, c'est I multiplié par T. Donc I c'est quoi? Eh bien je calcule I. Hein, I est égal à U sur R. U sur R, donc c'est U10 divisé par 5. Là, je sors quand même pas ma calculette. 10 divisé par 5, ça me fait 2. Et 2 multiplié par 30, puisque c'est 30 secondes, donc ça me fait 60 coulombs. Donc là, dans ma résistance, va passer 60 coulombs. Donc 60 fois 6, 25, 10 puissance 18. Voilà, ça en fait un certain nombre. Donc ça c'est pour, et encore une fois à l'examen, vous avez une ou l'autre, mais pas les deux, évidemment. Là c'est pour vous donner des exemples. Et donc le calcul pour la puissance dissipée, donc c'est W, donc le travail en joules, c'est égal à la puissance multipliée par le temps. La puissance, alors là j'ai tension, résistance. Je reviens sur mes triangles. Alors j'ai tension, résistance et puissance. Le seul où j'ai ces trois éléments-là en même temps, c'est celui-là. C'est P égale U2 sur R. Donc P est égal à U2 divisé par R. Je reviens sur mon truc. U2, donc ça me fait 10 fois 10. 100 divisé par 5, ça me fait 20. Donc 20, 20 fois encore mes 30 secondes, ça me fait 600 joules. Alors juste un truc pour ceux qui ont commencé à comprendre un peu comment ça marche. On a vu que P est égal à U multiplié par I. Et donc, le nombre de joules, c'est U multiplié par I multiplié par T. Et donc, U, on l'a, la tension, et IT, ici, on vient de le calculer, c'est Q. Donc, on peut dire que le travail, c'est égal à la tension multipliée par la quantité d'électricité. Et donc, c'est 10, la tension, multiplié par 60, la quantité d'électricité, ça me fait 600. Donc vous voyez qu'à partir de toutes ces formules-là, on peut s'amuser à jongler et retrouver assez facilement toutes ces unités. Donc là, on a vu les 6 unités qu'on va retrouver partout dès qu'on va commencer à bricoler et à découvrir toutes les lois finalement. On va systématiquement revenir à ces formules. Il faudra donc bien les assimiler parce que quand on va parler du condensateur, automatiquement vont apparaître la quantité d'électricité et la tension. Et donc le condensateur, il est bâti, la formule du condensateur est bâtie à partir de ces formules-là. Donc il faudra bien re se retrouver, enfin, s'en rappeler, et donc tout ça va s'imbriquer les uns dans les autres. Dernière petite notion pour ce soir, c'est sur la résistivité. Donc on a vu une résistance, bon, une résistance c'est un composant qui résiste plus ou moins au passage du courant. Et donc la résistivité, c'est un nombre qui caractérise le pouvoir d'un matériau Donc, nos résistances, ben, c'est un matériau. Alors, on va voir la semaine prochaine de quoi c'est constitué. Mais on peut dire qu'un fil, c'est un matériau. Et selon le fil qu'on utilise, soit c'est de l'or, de l'argent, du cuivre, du maïchor, tout ce que vous voulez, eh bien, chaque matériau va avoir son pouvoir à résister au passage du courant. Et je dirais même que la résistivité, au bout du bout, on arrive à quelque chose qui est isolant. Donc, on va voir tous ces matériaux, mais on va aller du plus conducteur au plus isolant. Et donc ça va déterminer donc la résistivité. Et cette résistivité, elle est définie donc pour un type de matériau bien précis et très important à une température. Cette température, elle est en général, elle est définie pour 20 degrés. Ce qui veut dire que si votre matériau chauffe, eh bien, vous êtes plus sûr de la valeur. En règle générale, pour un matériau conducteur, plus ça chauffe, plus ça résiste. Inversement, pour un matériau isolant, plus ça chauffe, moins ça résiste. Voilà, pour faire simple. Alors, évidemment, il y en a qui vont fonctionner dans l'autre sens. Et ils sont assez rares. Et du coup, ils vont être, il va y avoir des alliages du coup entre ces deux matériaux pour faire en sorte que la résistance, elle, ne bouge pas en fonction de la chaleur. Alors ça bouge, c'est pas non plus, ça va pas passer du simple au double, hein. Mais voilà, c'est un petit peu gênant, c'est-à-dire que si votre résistance, elle chauffe, et bien du coup, sa valeur va avoir changé. Donc c'est quand même un petit peu gênant. Donc cette résistivité, elle se définit par un nombre, et comme en physique on aime bien les lettres grecques, et bien on va utiliser la lettre rho, donc cette espèce de... ça ressemble à un P, mais c'est pas un P, c'est la lettre R minuscule grec qui s'appelle donc rho et qui le rho détermine la résistivité et cette résistivité elle est définie en ohm, non pas par mètre mais en ohm mètre, donc multiplié par mètre. Pourquoi? Parce que plus vous avez un fil long, plus il est résistant. Ça semble bête, mais enfin bon, on sent bien que plus on rallonge le fil, plus ça va résister. Et donc, la résistance du matériau va dépendre de la résistivité, évidemment, mais aussi, évidemment, des dimensions du matériau. Et si le corps est homogène, c'est-à-dire que si l'intérieur est partout le même, on va dire... Et c'est pas toujours le cas. On va dire que la résistance, elle est proportionnelle à la longueur, c'est-à-dire que plus c'est long, plus ça résiste, et inversement proportionnelle à la section. J'ai bien dit section et pas le diamètre. La section, ce sont des mètres carrés, hein, plus exactement des millimètres carrés, alors que le diamètre, c'est pas une surface. D'accord ? Donc en fait, là, on est bien en termes de surface de section. Donc on est bien en millimètres carrés et pas en diamètre. Puisque je rappelle, hein, rapport entre diamètre et section, il y a quand même le carré, hein, entre les deux. Donc c'est pas la même chose. Et donc la formule de la résistance, elle est donnée par cette belle formule. Donc c'est le rho de la résistivité. Donc en ohm mètre, multiplié par la longueur, divisé par la section en mètre carré. Alors pourquoi? Parce que systématiquement, on est bien dans un système MKSA, et donc la l'unité de longueur, eh ben, c'est le mètre, c'est pas le millimètre, c'est pas le centimètre, c'est le mètre. Et donc là, vous avez la résistivité de différents types de matériaux, donc avec quelque chose qui est très, très conducteur, qui est l'argent. L'argent est le plus conducteur, c'est pas l'or le plus conducteur, c'est l'argent. Avec un ρ ici de 1,6 multiplié par 10 puissance moins 8. Juste après, pas loin derrière, hein, il y a le cuivre. Alors pourquoi on utilise peu l'argent? D'une part, ça coûte cher, déjà. Alors c'est pas NKSA, c'est MKSA. Mètre, kilogramme, seconde et à ampère. Hein, c'est le système de qui d'unité, ça s'appelle le système MKSA. Et donc là, mon argent, c'est le plus conducteur, mais ça coûte quand même assez cher, donc c'est pour ça qu'on l'utilise peu. Et d'autre part, le gros problème de l'argent, c'est que ça s'oxyde. Et pas de chance, et donc ça s'oxyde en surface, l'oxyde d'argent, c'est un isolant. Et donc voilà, c'est un petit peu gênant d'utiliser de l'argent. Tout au moins, il faut utiliser de l'argent traité spécialement pour ne pas qu'il s'oxyde, parce que dès qu'il y a un peu d'oxydation, eh bien, il devient isolant en surface et donc il n'est plus homogène. C'est ça le gros problème. C'est qu'en fait, il y a une partie de sa section qui devient du coup isolant. Et donc ça réduit la section, nécessairement. Et donc, alors là, quand on parle de cuivre écroui, alors je rappelle quand même qu'on appelle du cuivre recuit, donc c'est le cuivre de plomberie, il est très dur. Et donc, pour l'écrouir, en fait, il faut taper dessus, il devient un peu plus mou, et donc c'est ce qui permet de faire les fils en cuivre, qui sont beaucoup plus souple que du cuivre classique. Et donc le cuivre écroui a un pouvoir résistivité plus faible que le cuivre classique. C'est pour ça qu'on différencie toujours le cuivre écroui et le cuivre recuit. Hein, parce qu'une fois que vous le faites, votre cuivre écroui, vous le refaites chauffer, en fait il se revient dur. Et donc, du coup, la résistivité, elle augmente un petit peu. Ensuite, on a l'or. Alors l'or, le gros avantage, vous voyez qu'il n'y a pas une grande différence. Hein. Le gros avantage, c'est que l'or ne s'oxyde pas. Et donc, on peut le laisser... Alors, le problème, c'est que ça coûte cher. Et donc, là, souvent, on a des contacts... Or, alors le cuivre aussi, hein, d'ailleurs, s'oxyde, pas facilement, mais il s'oxyde. Et même chose, l'oxyde de cuivre, c'est un bel isolant. Hein. Alors que l'or, lui, ne s'oxyde pas, donc on utilisait quand même, parce que maintenant on l'utilise de moins en moins, l'or, pour faire tous les contacts. Ensuite, on a l'aluminium, le laiton, le fer, qui n'est pas un bon conducteur, le fer. Hein. Après, on a des matériaux composites, le constantan par exemple. Le nichrome, c'est donc de l'acier inoxydable, le nickel chrome. Et donc l'inox n'est pas spécialement un très bon conducteur. Voilà. Ça ne s'oxyde pas, mais c'est pas un bon conducteur. Et puis après, c'est pour ça que je l'ai classé dans les matériaux, alors pas non conducteurs, faut pas exagérer, mais pas bons conducteurs. Les bons conducteurs, je les ai mis en bleu, en noir, alors finalement, ça s'appelle des semi-conducteurs, parce qu'ils ne sont ni conducteurs, ni isolants. Et donc, dans ces semi-conducteurs, on va trouver l'inox, le nickel chrome, l'eau de mer, le germanium, le silicium, dont on va parler plus tard, hein. L'eau pure est relativement isolante. L'eau de mer est relativement une bonne conductrice. L'eau pure, ça commence à isoler un petit peu, hein. Ici, donc, quasiment 0,3, et ici, 2 10 puissance 5. Et puis après, on a les matériaux qui sont isolants, donc l'air sec, la porcelaine, le polyéthylène, le papier, la bakélite, le plexiglas, le quartz, et le polystyrène, qui est le plus isolant, avec 10 puissance 20. Donc vous allez avoir le polystyrène, on va essentiellement le trouver dans les condensateurs, parce que c'est un très bon isolant. Et vous remarquez, le papier est relativement bon isolant, meilleur en tout cas que la porcelaine. Et ça coûte rien. La bakélite, c'est pareil, ça coûte pas grand-chose, et c'est un bon isolant. Voilà. Donc, il y a des tas de tableaux qui vous permettent d'avoir d'autres matériaux. Voilà, ça permet comme ça de fixer des idées. Comme on a parlé de la résistivité, on va parler quand même de la conductivité, parce que ça, c'est important. En fait, la conductivité, Monsieur Ohm aurait dû raisonner non pas en résistivité, mais en conductivité. Pourquoi ? Parce que ce qui nous importe, nous, c'est que le courant, il passe. C'est pas que le courant, il passe pas. Et donc, caractériser un fil d'un fil conducteur, pour le caractériser, il vaut mieux le caractériser en termes de conductivité plutôt qu'en termes de résistance, de résistivité. Et donc, en fait, c'est pas Siemens qui a inventé ça, puisque Siemens, il a strictement pas bossé dessus. On a juste donné le nom de Siemens à cette unité, et la conductivité, c'est l'inverse de la résistance. Et donc, cette conductivité, c'est avec résistivité, et conductance, donc c'est l'inverse de la résistance. Et donc, la conductance, elle est mesurée en siemens, et le siemens, c'est l'inverse de l'ohm. Donc, on peut soit raisonner en termes de résistance, soit en termes de conductance. Alors, Siemens, il n'a strictement rien à voir là-dedans. Il se trouve que Siemens, c'est au passage quand même l'inventeur de la dynamo et du haut-parleur. Bon, c'était un Allemand qui a du coup il a monté sa boîte, hein, elle est connue maintenant. C'est lui qui a inventé le haut-parleur en 1877 et auparavant la dynamo en 1866. Et donc, il est fabriqué dans ses usines, hein. Voilà d'où l'origine de cette marque Siemens. Donc ça, c'est conductivité. On va y revenir à cette conductivité, parce que quelquefois, il vaut mieux raisonner en termes de conductivité que de résistivité, enfin, tout au moins de conductance que de résistance. On va voir dans certains cas, c'est plus facile de raisonner conductance que résistance. Autre notion importante, c'est la densité de courant, parce qu'on se doute bien qu'un fil d'une certaine section, il va pouvoir passer une intensité, hein, puisque ce sont des électrons qui passent, et en fait, la question, c'est de savoir jusqu'à combien de quantité d'électricité peut passer dans un fil électrique sans que pour autant il soit que ça puisse passer. Et donc ça, c'est C'est très important et ça va dépendre du matériau qu'on utilise. Pour du cuivre écroui, donc ce qu'on utilise en règle générale, nous, dans nos matériels radio, on prend comme ordre de grandeur 5 ampères par millimètre carré. C'est à peu près c'est ça qui est reconnu, et même les électriciens en eux-mêmes, ils raisonnent toujours 5 ampères par millimètre carré, ou quand on est en électricité domestique, c'est 1 kW par millimètre carré. Voilà, donc c'est l'ordre de grandeur. Et donc, au-delà, si on va au-delà, on peut avoir des problèmes. Et enfin, on va effleurer un petit problème, c'est que notre résistivité, ça ne marche que pour du courant continu. J'insiste beaucoup là-dessus. Là, pour le moment, on n'a pas vu encore de courant alternatif, c'est-à-dire le fait que le courant change de sens régulièrement. Quand on est en courant alternatif, la résistivité qu'on a vue un peu avant ne va plus fonctionner, c'est-à-dire qu'on va plus pouvoir dire la quantité d'électricité passe à l'intérieur de la section de mon fil, mais elle ne va se propager que à la superficie. Et plus on monte en fréquence, plus cette épaisseur devient fine. Et c'est ce qu'on appelle l'effet de peau. L'effet de peau, c'est quoi? C'est que ici, l'épaisseur de cette peau-là, où passe le courant, quelle que soit la section ici, ici ça peut être plein, ça peut être creux, ça ne change rien. Le courant ici va se déplacer dans ici la périphérie. Si bien que quand on regarde du coup la section dans laquelle passe le courant, en termes de surface, il y en a beaucoup moins. Et donc, on estime l'épaisseur de cette peau-là grâce à cette superbe formule, l'épaisseur donc en microns, mu m, ce sont des microns, est égal à 66 divisé par la fréquence en mégahertz. Alors c'est vrai qu'on va un peu au-delà puisqu'on n'a pas encore vu ce que c'est qu'une fréquence, mais c'est pour vous montrer que cette histoire de résistivité, ce n'est vrai que 1 à 20 degrés, 2 en courant continu. Et donc, quand on est à 50 Hz, 50 Hz, ça va, sauf que 50 Hz, l'épaisseur de cet effet de peau, là, c'est 9,4 mm. Donc, on peut se dire à 50 Hz, c'est peanuts. On monte à 20 kHz, 20 kHz, c'est pas très haut en fréquence. 20 kHz, on est déjà à 0,5 mm. C'est pour ça que souvent dans les enceintes en audio, on va utiliser non pas des gros fils, mais des fils avec plein de petits conducteurs. Pourquoi ? Alors c'est pas parce que spécialement que le fil du coup est plus souple et que du coup on peut plus facilement le passer sous les meubles et autres, c'est que du coup on réduit cette possibilité. Parce que si on utilisait un fil qui, par exemple, qui fasse du 3 mm carré, qui soit d'une seule pièce, et bien on est certain que le courant ne passera pas à l'intérieur. Donc on va utiliser du multibrin. Au passage, à 1 MHz, qui n'est pas une fréquence très élevée, l'épaisseur ici de notre effet de peau ici sera de 66 microns. Et plus ça monte comme ça, et quand on arrive à 1 giga, il n'y a plus ici que 2 microns. Donc si vous avez un fil, même un petit fil, qui n'est pas multibrin, vous allez perdre énormément de résistivité à cause de cet effet de peau. Et donc, pour limiter l'effet de peau, on va utiliser du câble composé de fils de petit diamètre, voilà, plutôt qu'un câble monobrin. Et autre méthode aussi, on va faire en sorte, parce que le problème, c'est que souvent, sur la périphérie, là, notamment pour le cuivre, mais pas que, on va avoir de l'oxydation. Et cette oxydation va faire que la partie où le courant est censé passer, eh ben, pas de chance, c'est la partie qui est oxydée. Et donc, ça réduit encore plus l'épaisseur de cette peau où va passer le courant. Et effectivement, l'effet de peau va créer du coup cette résistance supplémentaire, puisque je ne passe plus dans l'intégralité ici de ma surface, mais je vais passer ici dans une petite périphérie. Donc ça va augmenter ma résistance. Et donc c'est ça qui est vraiment problématique. Donc la solution aussi que l'on va utiliser pour nos fils électriques, c'est que pour éviter qu'il y ait de l'oxydation qui se fasse ici en superficie, on va traiter les fils. Alors soit on met un traitement, traitement de surface. Donc par exemple, c'est de la peinture ou de l'émail, ça donne du cuivre émaillé. Ou alors on recouvre cette partie-là par un matériau très conducteur avec de l'argent, par exemple, hein, avec de l'argent traité spécialement, donc on rajoute quelque chose dans l'argent pour faire en sorte qu'il ne s'oxyde pas. Donc ce sont du coup des matériaux qui coûtent un peu plus cher, qui sont traités, qui coûtent un peu plus cher, mais qui du coup ont une résistivité, une résistance qui est plus faible, et ça va être notamment utilisé dans les câbles coaxiaux. Parce que les câbles coaxiaux, ils peuvent monter quand même assez haut en fréquence, et que c'est dommage de perdre une partie de l'énergie, parce qu'évidemment, quand on parle de résistance dans un conducteur, la résistance, c'est de la chaleur, donc ça chauffe les oiseaux. Mais en tout cas, ça n'arrive pas jusqu'à l'antenne dans ce cas-là, et c'est un petit peu dommage. Rapidement, quelques questions qui ont été posées à l'examen, alors plus ou moins récemment, mais bon, alors il y en a. Alors, il y a des questions de ce type-là, c'est-à-dire qu'on vous propose quatre formules et on vous demande de ces quatre-là, quelle est la vraie ou quelle est la fausse. Voilà. Alors, si on fait passer du courant dans un tube, cet effet de peau a lieu à l'intérieur, à l'extérieur du tube. Tout à fait. C'est à partir du moment, tous les conduits, enfin tout ce qui est à l'extérieur. Donc effectivement, si c'est un tube, on va multiplier l'épaisseur, puisqu'on va avoir un passage de courant à l'extérieur du tube et un passage de courant à l'intérieur du tube. Donc effectivement, il vaut mieux utiliser du tube plutôt que un fil électrique. Et d'ailleurs, c'est ce que fait EDF, hein, tous les câbles haute tension. À l'intérieur, c'est creux. Enfin, tout au moins, c'est creux. Il y a un matériau pour éviter que le fil se détende trop. Mais en tout cas, c'est pas un matériau conducteur. La conduction, elle se fait à l'extérieur. Enfin, au niveau du tube, donc sur la couronne intérieure et sur la couronne extérieure du tube. Donc, exemple là, il faut trouver quelles sont les formules exactes. Donc la formule 1, c'est pas U égale R plus I, donc c'est pas la bonne. La formule 2, W est égal à la puissance, enfin donc le travail est égal à la puissance divisé par le temps. C'est faux, c'est multiplié par le temps. I est égal à racine carrée de P multiplié par R. Alors, on va revenir en arrière. Alors, U est égal à, donc c'est ce triangle-là, U est égal à racine carrée de P multiplié par R. Donc celle-là, elle est bonne. Ah, on a été prendre l'anti-sèche. Ah non, c'est I. Ah ben non, pas de chance, c'est I, donc c'est l'autre. Donc c'est I est égal à racine carrée de P divisé par R. Je n'ai pas pris la bonne. Et enfin, la 4. La 4. P égale UIT. Ça, c'est bon. Alors, attends, c'est quoi du coup la bonne? Ah ah ah! Donc, c'est la 4. Il n'y aurait plus que celle-là. Je suis étonné parce que celle-là, je la sens mal quand même. Bon. Donc, ça serait la 2 et la 4, puisque je n'ai que la 4, je n'ai que celle-là. Ah. Ou alors, c'est aucune. Alors, la puissance. Ah ben non, la puissance, c'est UI. Ça, c'est W égale UIT. Je me fais des pièges moi-même. Hein. Donc, il n'y a aucune formule qui est bonne là-dedans. Elles sont toutes fausses. Que mesure-t-on? Que mesure-t-on? Donc ici, j'ai une résistance. Ici, j'ai un instrument de mesure, donc en série sur le fil. Et ce que je mesure ici, a priori, c'est l'intensité. Encore une fois, je n'ai aucun instrument de mesure qui me donne la puissance en tant que telle. À chaque fois, la puissance, elle va être calculée à partir des autres éléments. Soit la résistance, soit la tension, soit l'intensité. Enfin, tout au moins avec deux de ces valeurs. Donc, la puissance, je n'ai aucun instrument de mesure qui va pouvoir me la donner. Donc, ça ne peut être ici que l'intensité. Et la puissance dissipée par R, donc P est égal à, qu'est-ce que je vais prendre? RI2, je le sens bien. Qu'est-ce que je vais faire? Donc R multiplié par 1P égale RI2. Donc P est égal à R multiplié, alors donc ça c'est des kilo-ohms, attention, on utilise la calculette et donc les puissances de 10, et même ici, les puissances négatives de 10. On va le faire à la calculette ce truc-là. J'ai préparé ma calculette. Hop. Je la mets en route. Donc là, donc c'est 33. Donc c'est P égale RI2. Hein. Donc 33 multiplié par 10 puissance 3 divisé par I au carré. Donc j'ouvre ma parenthèse pour ne pas me faire piéger. Je vais utiliser une vieille calculette avec pas beaucoup de digits là. Mais bon, c'est pas grave. 5 multiplié par 10 puissance moins 3. Je ferme ma parenthèse et je mets au carré. Moi, j'ai utilisé une vieille calculette là. Je fais exé. Et donc, ça me donne. Ouais, j'ai divisé. Pourquoi j'ai divisé? Fatigué, suppresse, et je fais multiplier. Eh merde. Alors, insère. Hop, voilà, on y arrive. Exé. Voilà, ça va mieux. 8,25 10 puissance moins 1. Alors, et on s'amuse avec mon, donc la unité, donc là c'est les milli, donc 8,25 10 puissance 1, donc ça me donne ma virgule ici, donc c'est 8,25, voilà, je l'ai bien écrit, et donc 8,25 milliwatts. D'accord ? Comme quoi, on a utilisé la calculette et la table de conversion. On va voir, je reviens sur mon PDF, et on va voir les réponses. Voilà. Donc, on n'est pas trop mauvais. Est-ce que j'ai d'autres questions ? Ouais. Alors, j'ai des questions aussi avec, quelquefois, des piles comme ça. Donc la pile, en fait, elle est ici juste pour vous montrer que j'ai un générateur. Mais en aucun cas, c'est une question directement sur les piles. On ne pose pas la question sur la pile. On a juste une pile en tant que... j'ai écrit trop petit et je pense que c'est passé très mal à la webcam. Donc j'écrive un peu plus petit quand je fais ce genre de choses. Ma pile, là. Ici, j'ai une pile, mais je pourrais avoir n'importe quoi. C'est pas ça qui me pose problème. Mon problème, là, c'est savoir qu'est-ce qui se passe dans ma résistance. D'accord. C'est une question, ça, plus sur la loi d'eau, mais pas sur les piles. Donc, la puissance dissipée dans R, dans cette question, c'est quoi ? P est égal à 8, donc 12. Multiplié par 0,005. Donc, ça me fait 60 milliwatts. Hein, 12 fois 5, 60. Et le seul qui me donne 60, c'est celui-là. C'est donc 60 milliwatts et je le sens bien comme ça. Calculer Q ici. Donc, je veux calculer la quantité d'électricité. Et j'ai donc 50 secondes, 600 milliampères et 5 volts. Quand on parle de quantité d'électricité, la tension met complètement, elle me sert strictement à rien. Ce qui va me servir, c'est ici le temps et d'autre part ici l'intensité. Donc ça ici, c'est pour la tension qui est aux bornes de la pile, c'est de la résistance, pardon, ça va vous perturber plus qu'autre chose, mais ça ne sert strictement à rien. D'accord ? Et donc ce qu'il faut faire, c'est 600 mA multiplié par 50 secondes, et ça me donne 30 coulombs. Enfin, en fait, 50 multiplié par 0,6, et ça donne 30. Ici, énergie dissipée par R. Donc, ce qu'on va calculer là, du coup, c'est la puissance. Ça tombe bien, j'ai une résistance, une intensité. Donc, je vais pouvoir calculer ma puissance, hein, puisque P égale RI au carré. OK. Et je multiplie ça, ici, par 3600, puisque je suis encore une fois en joules. Et donc, si je suis en joules, il faut que je multiplie par le temps en secondes. Je prends ma calculette. Hop. Donc, c'est donc 100 multiplié par 5 multiplié par 5. Voilà, donc ça me donne ma puissance, hein. P égale RI au carré, donc 100 fois 5 fois 5, et je multiplie par 3600. Je fais exé, et ça me donne 9, 10 puissance 6, donc méga, 9 mégajoules. je reviens sur mon PDF et je vois les réponses. Donc là, c'est pour vous dire la pile là. Enfin, je l'ai classé ici dans les lois d'Ohm parce que la pile n'apporte rien du tout. Ici, donc, c'est mes 30 coulombs et mes 9 mégajoules, ce qui est quand même pas mal. Mais ça ne fait que 5 kWh, donc pour monsieur EDF, c'est pas grand-chose. En fait, c'est un chauffage qui a marché, qui a bien marché pendant une heure. À 5 kW, j'ai un beau radiateur. La petite expérience du vendredi soir. Donc maintenant, on va se faire des expériences tous les vendredis soirs. Je vous mettre ici. Alors, je vous présente la manip. Donc ici, c'est une plaque d'essai. Alors une plaque d'essai, j'en ai une autre ici. Donc ça, c'est une vieille plaque d'essai. Donc il y a tous ces petits trous là, ce qui permet de poser ces composants. Ce qui est intéressant, c'est que c'est au pas ici de dixièmes de pouce. Donc ça permet notamment de pouvoir positionner des circuits intégrés. Et en fait, ce qui est relié, dans ce sens-là, donc c'est tous reliés, tous les points sont reliés sur chaque ligne. Évidemment, ils ne sont pas reliés dans l'autre sens. Les seuls qui sont reliés dans l'autre sens, ce sont cette ligne-là et cette ligne-là. Hein, quand on regarde derrière, je ne sais pas si on voit, pas sûr, la piste là, elle suit en fait dans ce sens-là. Je ne sais pas si on le voit. Ouais, c'est peut-être mieux parce que là, il y avait le plastique. On le voit peut-être mieux dans ce sens-là. Voilà. Voilà. Donc là, je l'ai fixé ici sur un bout de planche. Donc ça, c'est une vieille plaque d'essai. Et sur cette plaque d'essai, j'ai mis une résistance. Et l'idée, c'est de mesurer l'intensité, la tension, et d'en déduire la valeur de la résistance et la puissance dégagée. Donc j'ai ici un ampèremètre. Alors j'ai fait mon petit montage. Le fil qui arrive ici arrive là. Arrive sur le noir, non sur le rouge, pardon, voilà, ici. Ce qui est ici, alors donc celui-là, le fil noir là, arrive sur ma pile que voici, que voilà, que je remonte, qu'on voit, alors j'espère que ça ne va pas se casser la gueule, voilà. J'alimente donc mon circuit va faire quoi ? Il va donc partir de la pile, arriver ici sur ce plot-là. Ici, ça va alimenter ma résistance, ça va traverser là, ça va ressortir là, passer par le fil marron. Du fil marron, ça arrive ici sur mon noir, sur mon rouge, et le noir, donc, c'est le fil commun. Où je vais brancher ma pile. Je branche ma pile. Je la mets en mode 20 ampères. Et voilà ma. Alors pourquoi je l'ai mis en mode 20 ampères? J'aurais pu le mettre en milliampères, mais je sais par expérience que c'est pas, que le calibre n'est pas suffisant. On me dit là qu'il faut que je mette. Enfin, que j'ai au maximum 300 mA. Donc j'ai bien fait de le mettre à mon calibre maximum, puisque là j'en ai 430 mA. Okay. Donc, alors qu'ici j'ai 20 ampères maxi. Et donc maintenant je prends un autre voltmètre que j'ai ici, que je vais mettre en mode voltmètre, et je mesure la valeur de la résistance, donc ici entre là et là pour avoir ma tension. Qu'est-ce que ça m'indique là? Ça m'indique n'importe quoi. Allez, j'ai une pile de 9 volts, donc si ça me donne autre chose que 9 volts, c'est qu'il y a un truc. Là, c'est des millivolts, donc j'ai un problème. Alors, si je me mets là, ça va mieux. Parce qu'en fait, ce sont les touches là qui ne sont pas extraordinaires, mais ma résistance, elle est vieille et les fils là sont un peu oxydés. Donc ça me sort. Oula. Voilà, si je bouge, voilà. Ça me donne 7,70 volts. Vous remarquez que ça ne me donne pas les 9 volts de ma pile, pourtant elle est neuve. Donc c'est que ma résistance, elle consomme de l'énergie et donc ma pile, ben, elle se met un peu à jour. Et j'ai 410-420 milliampères. Donc on a vu 7,64-420. On a ça en tête. On a ça en tête. Je prends ma calculette. Alors, on. Et si je fais 7,7 pour faire simple, divisé par 0,42 pour faire 420, exé 1,833 10 puissance 1, donc 18,3 ohms. Alors, il y a peut-être un reflet sur la calculette là. Je la mets là. Ouais, ça va mieux. Donc 18,3 ohms. Maintenant, bah, je vais mesurer ma résistance. Donc la seule manière, c'est d'ouvrir mon circuit. Je passe ici en calibre ohmmètre. Et je vais mesurer ma résistance entre là et là. Alors, si ça veut bien marcher. Pourquoi ça marche pas? Oui, il faut que je le reprenne. Il est où? Mon fil, il est là. Que je le débranche. Toc. On va y arriver. Donc ça, c'est mes deux fils qui arrivent là. Hop, hop. Et qu'est-ce que j'ai d'eux? Qu'est-ce que j'ai là? Allez, vas-y, cherche. Allez. Ah, 18,7 ohms pour 18,33 calculé par ma calculette. Je ne suis pas trop loin. Je ne suis pas trop mauvais. C'est toutes les... Puisque j'ai pris des valeurs un peu arrondies. Donc ça doit être ça. Et maintenant, je rebranche l'ensemble, puisque j'ai tout démonté, donc il faut que je remonte tout. C'est pas grave. Et si je rebranche l'ensemble, donc ça, j'ai mesuré la résistance, donc je l'ai validé par le calcul, 18,33, et je l'ai vérifié à l'instrument. Maintenant, je rebranche mon ensemble, donc il recommence à débiter. Et quelle est la puissance de ma résistance? Donc au lieu de faire mes 7,7 divisé, donc de faire U divisé par I, je fais U multiplié par I. Donc je me balade là, je fais suppresse, je fais seconde, insert, multiplié. Donc c'est toujours pareil, 7,7 multiplié par 0,42. Je suis désolé, j'ai pris ma vieille calculette, j'aurais dû prendre la nouvelle, la plus récente. Et la puissance me donne 3,23 watts. Et quand je touche, alors, ça commence à chauffer, c'est-à-dire que je ne peux pas laisser trop longtemps mon doigt sur la résistance. C'est-à-dire que voilà. Enfin, je me brûle pas, mais c'est pas très agréable. Je vais arrêter. Alors, quand, en fait, quand on, au doigt, si on n'arrive pas à garder son doigt, on peut laisser son doigt enfin, longtemps si ça fait moins de 60 degrés. Au-delà de 60 degrés, on ne peut pas le garder longtemps. Donc là, ça, on doit monter à 70, 70-80 degrés, je pense. Donc, moralité, on a bien démontré là que ma résistance, si je la monte sur une pile, eh bien, elle va chauffer. Et d'ailleurs, si vous avez, enfin, je sais pas, on va pas le voir là à la webcam, mais sur la résistance, il est marqué 18 ohms plus ou moins 5%. Donc, les 18,6 là qu'on a trouvé, ou 33 qu'on a trouvé à la calculette, ça correspond bien à la valeur de la résistance de mon composant. Voilà. Eh bien, voilà. Donc, on a fini le petit cours de ce soir. Je reviens sur le PDF. Le PDF. Et je vous souhaite à tous un très bon week-end et à la semaine prochaine pour la suite des aventures. Bye bye.